Vous avez compris, c'est la seconde partie de cette édition. Comment améliorer la qualité de la formation dans les centres de formation technique et professionnelle? Il y a eu une conférence régionale la semaine dernière à Goma. Marc Marofimbo nous en parle dans ses dossiers.
Cette conférence avait pour objectif de permettre aux acteurs impliqués dans ce domaine, venus de la RDC, du Rwanda et du Burundi, d'échanger leurs expériences sur cette problématique. En RDC, l'Institut national de la préparation professionnelle, par exemple, dit que deux défis majeurs bloquent l'avancée de la formation professionnelle dans ce pays. Gogo David Kibila, adjoint technique de l'INPP Nord Kivu.
La formation professionnelle exige de grands investissements pour que ça soit une formation qui a de l'adéquation avec le marché de l'emploi. Un autre, c'est plusieurs acteurs qui interviennent. Les uns sont connus, les autres se cachent. On ne sait même pas qu'est-ce qu'ils utilisent comme programme. Parce qu'on peut aider à porter l'encadrement à une personne que lorsqu'on l'identifie et on identifie ce qu'il a et ce qui lui manque.
Pierre-Céleste Bishokusenge, responsable des centres d'encadrement professionnel au Rwanda, énumère, lui aussi, de nombreux défis auxquels fait face l'encadrement technique de la formation professionnelle dans son pays.
On observe que le taux du budget alloué dans ce secteur est encore faible. Deuxièmement, il y a un problème d'enseignants qualifiés, préparés à enseigner. Un autre problème, c'est un problème que je qualifierais de mentalité, où beaucoup de parents pensent que l'enfant à orienter dans la formation professionnelle, c'est un enfant qui présente certaines faiblesses dans l'enseignement général.
Mais que fait l'État ou leurs gouvernements respectifs dans la facilitation de leurs tâches afin que les centres d'encadrement technique et formation professionnelle fonctionnent normalement? Réponse de Nicole Kassongo, chef des bureaux de l'éducation non formelle à la division provinciale des affaires sociales.
D'abord, c'est le programme du gouvernement. C'est le gouvernement qui coordonne, c'est le gouvernement qui les assiste. Ces centres-là sont enregistrés dans la division des affaires sociales. Et si un partenaire arrive en province ici pour appuyer une activité qui se trouve au centre, il doit d'abord se rassurer si ce centre-là est reconnu au niveau du gouvernement. Et si ce centre met en application le programme du gouvernement, après, le partenaire pourra appuyer le centre.
Toutefois, disent les uns et les autres, malgré les efforts que fournissent leur gouvernement, les besoins en équipement restent encore considérables pour le bon fonctionnement des centres d'encadrement technique et des formations professionnelles. Mais les organisateurs, eux, disent qu'en organisant cette conférence, ils ont quand même certaines attentes. Charles Chikoza, consultant en matière d'éducation au sein de l'ONG VIS.
La RDC pourra, après échange d'expériences des différents intervenants, bénéficier de leurs échanges pour réguler, recadrer, reformuler le mode de gestion de l'enseignement technique et professionnel en RDC. Le second résultat est que le même type d'enseignement sera celui de la RDC, celui du Burundi et du Rwanda, que un apprenant ou un apprenti qui vient du Congo pourrait facilement continuer son cursus au Burundi ou au Rwanda.
Goma, Marc Marofimbo, Radio Kapi.
Revue de presse.
C'est avec Folkin Consomoussir Africa. Bonjour.
Bonjour Jacques-Yves Molima. Commençons ces journaux des journaux parus ce matin à Kinshasa avec ses premiers déjustements à la présidentielle du 23 décembre 2018. Empruntons donc les services de Forum des As qui titre sa une. Jusqu'alors candidat président de la République, Michel Okongo se retire de la compétition. En effet, après avoir mûrement réfléchi, les candidats président de la République renseignent le quotidien. Michel Okongo Lomena décide de se rétracter dubitatif quant à la tenue des élections en décembre prochain. Le président des unités de valeur plaide pour la mise en place des mécanismes de gestion consensuelle du pays jusqu'à la tenue effective des élections présidentielles. Michel Okongo critique sévèrement le processus électoral et se critique de la course. Encore actualité.cd, Michel Okongo Lomena motive sa décision notamment par l'imposition par la CENI de manière unilatérale de la machine à voter, l'absence de lisibilité, de traçabilité, de visibilité et d'inclusivité du processus électoral, l'incursion de la MP au cœur du système électoral afin de le torpiller, la prise en otage du processus par la majorité présidentielle au pouvoir en dépit de la mise à l'écart réelle ou supposée du chef de l'État et la volonté par la CENI du calendrier, la violation par la CENI du calendrier avec pour conséquence les retardements de la tenue des élections prévues au 23 décembre 2018, les tabloïdes, s'ils sont communiqués de presse publiée hier mercredi, 22 août 2018. C'est sur cette procédé par les 5 raisons avancées par Michel Okongo, dont actualité procédé évoquée tantôt, mais de son côté renchéri. C'est sur cette procédé, l'ex-premier ministre Sami Badibanga promet un salaire minimum de 250 dollars aux agents de l'État. Il a dit hier mercredi, lors de la présentation de son programme de gouvernement, à 2 jours de la publication des listes provisoires des candidats à la présidentielle et aux législatives, écrit Forum des As, faux diplôme, la vigilance s'impose, la CENI invitée à appliquer la loi dans toute sa rigueur. En effet, depuis quelques jours, le ministre congolais de l'ISU, Steve Mbikai, a promis de pourchasser les détenteurs de faux diplômes. Il nous revient à ses propos. Prévient Forum des As que parmi les candidats à la présidentielle, certains se prévaudraient de faux parchemins, vrais ou faux, à la CENI et à la justice, d'éclairer la lanterne de l'opinion en temps opportun.
L'invité. Le gouvernement a lancé mardi dernier la campagne nationale d'inscription des enfants de 6 à 7 ans à l'école primaire. Le secrétaire général a révélé que près de 99% des écoles prévues par le gouvernement Tata ont été construites et que 7500 enseignants non payés recevront leur salaire au mois d'octobre prochain. Ces avancées vont permettre, selon lui, d'aborder l'année scolaire 2018-2019 avec sérénité. Jean-Marie Mangobé est l'invité. Il s'entretient avec Jean-Pierre Lalicoco.
Monsieur Jean-Marie Mangobé, vous venez par l'entremise du ministre de l'EPSP de lancer la campagne d'inscription des enfants de 6 à 7 ans à l'école primaire. Il faudra réussir le pari de faire inscrire et maintenir cette année au moins 2 millions d'enfants à l'école. Alors comment comptez-vous relever ces défis et l'engagement du gouvernement?
Bon, vous venez de vous rendre compte, c'est le gouvernement de la République avec son partenaire l'UNICEF qui vient de procéder au lancement de la campagne d'inscription des élèves en première année primaire des élèves de 6 ans et de 7 ans. C'est une activité que nous organisons depuis près de 10 ans parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait un grand nombre d'enfants qui avaient atteint l'âge de scolarité mais qui continuaient à rester à la maison. Le gouvernement a réfléchi sur la question avec l'UNICEF et des dispositions ont été arrêtées pour que, à la veille de la rentrée scolaire, une campagne de sensibilisation soit lancée en direction des parents d'élèves, en direction des écoles et des chefs d'établissement scolaire pour que l'inscription des enfants de 6 à 7 ans dans les classes de primaire soit facilité.
Oui, après la campagne, qu'est-ce que vous allez faire concrètement pour que 2 millions d'enfants soient inscrits?
Mais la campagne en elle-même constitue une stratégie pour que ces enfants-là viennent à l'école. Vous avez vu que l'UNICEF a mis à la disposition du gouvernement des kits scolaires. On donne des cartables, des cahiers, des stylos aux enfants pour enlever ce prétexte des parents de dire que non, il n'y a pas de moyens pour pouvoir acquérir les fournitures scolaires, ces enfants vont attendre à la maison et tout ça. Non, l'UNICEF a mis les moyens pour que la sensibilisation soit faite.
Il y a certes des défis à relever au cours de cette année scolaire, parmi lesquels les infrastructures scolaires. Il y a aussi la gratuité de l'enseignement qui n'est pas encore effective, et vous le savez. Alors revenons un peu aux infrastructures. Premier ministre de l'époque, je veux parler de Matata Mponyo, avait lancé une opération de la construction des 1000 écoles. Est-ce que vous pouvez nous faire aujourd'hui l'état des lieux?
Oui, je vais suivre le mot du représentant de l'UNICEF au Congo. Le représentant de l'UNICEF est tout à fait d'accord. Il s'est réjoui de constater qu'il y a de très grandes améliorations dans le système. Et dans cette amélioration, il n'y a pas que l'aspect élève. Il y a aussi l'aspect infrastructure. Vous-même, en tant que média, vous êtes témoin de cette évolution. Vous voyez que ces écoles-là ont été effectivement construites à travers la République démocratique du Congo. Nous avons construit près de 99% des écoles prévues. Donc il y a, si ma mémoire ne me trahit pas, il y a 4 ou 5 écoles qui posent encore des problèmes. Mais pratiquement, si on est à 99%, c'est que tout le monde voit ça. Il n'y a pas un seul territoire qui va dire qu'il n'a pas bénéficié d'au moins une école. Et c'est une réalité.
Voilà, c'est une réalité, mais il y a un autre défi, c'est que les enseignants aspirent cette année à l'amélioration de leurs conditions de vie et de travail.
Oui.
Il y a beaucoup de non-payés dans votre secteur, il y a aussi des nouvelles unités. Et qu'est-ce que ceci, donc ces derniers peuvent attendre de vous? Et que peut faire le gouvernement?
Je crois que vous le savez, vous êtes témoin vous-même, de de l'effort du gouvernement en ce qui concerne l'amélioration de la qualité, l'amélioration des conditions de vie des enseignants. Donc, le gouvernement, chaque année, en ce qui concerne particulièrement les enseignants non payés, prend en charge un certain nombre d'enseignants. Et je profite de votre micro pour annoncer aux enseignants, à l'opinion, que le gouvernement prévoit de prendre en charge, à la paye du mois d'octobre, 7500 enseignants NP. Donc la prise en charge des NP est une question qui trouve sa solution de manière progressive. L'État n'a pas les moyens de pouvoir prendre en charge parce qu'ils sont 145 000. Vous voyez, prendre 145 000 enseignants du coup, il faut un budget consistant. Les moyens ne le permettent pas. Chaque année, l'État prend en charge un certain nombre d'enseignants. Et pour cette année, donc à la paye du mois d'octobre, 7500 enseignants non payés ont bénéficié de leur salaire.
Jean-Marie Mangobé, Radio Capi vous remercie.
Au Capi Sport. On parle sport dans cette édition avec Kanish Mukongo. Bonjour.
Bonjour Jacques-Yves Molima, bonjour à mes sportifs. Le coup d'envoi de la 15e édition de la Coupe de la Fédération de Volleyball du Congo Fevoko, version masculine, a été donnée hier à Kindu dans la province des Maniema. Quatre matchs se sont joués pour la première journée. Comment les choses se sont déroulées? Plus de détails avec Enoch Matondo qui était au Stadium Mapon.
Le tenant du titre Espoir de Kinshasa, la dernière explication, n'a fait qu'une bouchée du VC Spikers 3-7-0, soit 25-15, 25-10. Le représentant de la province du Sud Kivu, qui s'est réveillé au dernier set, n'a pas pu le gagner. Il perd par 25-19. Avant cette rencontre, deux néophytes se sont croisés. Blessing du Lualaba a battu Espoir de Kindu 3-7-0, soit 25-9, 25-13 et 25-13. Les deux rencontres du matin se sont soldées respectivement à l'avantage de police de Kinshasa devant Kassai Espoir sur le score de 3-7-1, soit 25-19, 25-21, 23-25 et 25-13. De Young du Nord Kivu a battu Kista Dukulu 3-7-0, soit 25-11, 25-11 et 25-9. De Kindu, Enoch Matondo pour Okapi Sport.
Quatre autres rencontres sont à l'affiche ce jeudi. Interkin joue Espoir de Kindu, Mazembe rencontre Police de Kinshasa. Mangaza va faire face à Kista Dukulu. Espoir de Kinshasa sera reçu par Price. Changeons de discipline pour parler handball. La 35e édition de la Coupe du Congo démarre donc ce jeudi au terrain annexe du stade Père Raphaël de la Quétule dans le Deux-Versions. La réunion technique de cette 35e Coupe a eu lieu hier au siège de la Fédération de handball sur Tropique à Limété, première rue industrielle. 19 clubs se disputeront donc les titres, dont 8 chez les dames. Ils sont issus de provinces de Haut-Katanga, Kasaï Oriental, Congo Central, Bandundu et Kinshasa. Pour le programme de ce jeudi, il se présente donc de la manière suivante. Déjà à 14h, défilé des équipes. À 14h30, le match des dames qui va opposer Héritage à DCMP. À 15h30, chez le monsieur, police croise Kingsport. Rappelons que la dernière édition a été remportée par les équipes de Kinshasa, GSK chez les garçons et vainqueur chez les filles. Football à présent, on parle de la finale de la Coupe Super Champion de Kinshasa qui a été remportée hier après-midi par la jeunesse sportive de Kinshasa qui a dominé les Aiglons par 1-0. De l'autre côté, Étoile Jaune a gagné la Super Coupe de Lubumbashi grâce à sa victoire au tir au but face à Blessing 4-3 lors de temps réglementaire. Les scores étaient d'un but partout. Nouvelle des internationaux congolais, Cédric Bakambu a offert un doublé à son équipe Benji Nguguan qui a gagné Guangzhou RF par 5-1 à match de demi-finale à l'aide de la Coupe de Chine. Et autre international congolais, c'est Yannick Bolassier qui est annoncé pour Middlesbrough au championnat anglais. Il sera probablement prêté à Aston Villa. Il est arrivé hier au stade pour assister au match face à Brentford. Les deux équipes se sont séparées sur la note de 2-2. Et puis, Dieu merci, Mbokani se cherche un nouvel employeur. Selon certains médias belges, il est proche d'un retour en Jupiler Pro League. Le Congolais de 32 ans est un joueur libre depuis la fin de son contrat au Dynamo Kiev en juin dernier. Plusieurs clubs turcs s'intéressent à lui.
Merci, Kanish Mukongo. Il est 7h30 à Kinshasa. C'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis.